Et on va lire à partir du verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre est laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Ça, c'est le Seigneur qui le sait. Mais ce que Jésus nous dit, bon, vous savez tous que Matthieu 24, c'est un passage où Jésus parle de la fin des temps. Il y a une partie qui a été sans doute qui s'est déroulée 70 ans après, voilà, mais il y a aussi une partie qui concerne véritablement la fin des temps. Et au verset 32, Jésus dit « Instruisez-vous ». Instruisez-vous, c'est quoi ? C'est apprenez, c'est comprenez ce qui va se passer. Faites-le, faites ça, instruisez-vous. Instruisez-vous avec les choses que vous voyez, n'est-ce pas ? Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous savez que l'été est proche. En fait, inspirez-vous par l'analogie des choses, par la logique des choses. Faites ana, c'est l'aller-retour, je crois, et logie, la logique. Faites observer les choses, voyez ce qui se passe, et tirez-en les conséquences. C'est ce que Jésus, en fait, est en train de dire à ses disciples. N'est-ce pas? Le Seigneur attend que nous ayons une connaissance, en fait, du temps dans lequel nous vivons. Il veut que nous soyons avertis et que nous ne vivions pas nos vies de chrétiens un peu en nous laissant guider par la météo et par les infos qui passent à la télé. Mais regardez véritablement les choses qui concerne mon retour. N'est-ce pas? Et Jésus parle, en disant cela aussi, il parle d'une situation qui s'est déroulée il y a longtemps et que tout le monde connaît. Il parle de la situation qui a touché Noé et les hommes qui habitaient à l'époque. Pour ce qui est des jours et de l'heure, personne ne le sait. Seul Dieu le sait. Mais il va revenir. Il y a beaucoup de théories sur la fin des temps et tout ça, et je ne vais pas rentrer dans ces choses-là. Mais il va revenir. Et d'une certaine manière, pour chacun d'entre nous, Jésus revient le jour où nous mourrons. N'est-ce pas? La fin du monde, pour chacun d'entre nous, c'est le jour de notre mort. Ça, de toute façon. Et la question qui se pose en filigrane derrière, c'est est-ce que ce jour-là, on est prêt à mourir? Est-ce que vous, dans l'église ici à Hasbrook, vous êtes tous prêts à mourir maintenant? Est-ce que moi qui vous parle, je suis prêt à mourir maintenant? Et donc, c'est quelque chose de sérieux que Jésus est en train d'expliquer là. Parce qu'il continue et dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? Les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est quoi le problème avec ça? Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? De manger, de boire, de se marier, de marier nos enfants, c'est pas un problème. Jésus n'était pas en train de leur dire, eh bien, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, et c'était grave. Il disait pas ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Il se passait que Dieu, on va aller dans Genèse 6, c'est ça? Je vais juste glaner quelques versets. « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront 120 ans. » Ensuite, la terre, verset 11, était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche et il donne toutes les instructions pour la construction. Voilà ce qui se passait. Alors Noé a commencé à bâtir son arche, n'est-ce pas? Et cette arche, ça a mis du temps. Il a bâti à un endroit où il n'y avait pas d'eau. Il l'a bâti au milieu du peuple. Et que faisait ce peuple? Ils se mariaient, mariaient leurs enfants, ils mangeaient, ils buvaient. Et ils avaient devant eux un témoin de ce que Dieu allait faire. On va aller dans 1 Pierre, parce qu'il y a des passages là qui sont importants. 2 Pierre, je crois. Voilà. Oui, il y a plusieurs endroits, mais je cherche le bon passage, en fait. 2 Pierre 2, verset 1, je pense. Oui. En fait, c'est 2 Pierre 2, pardon. Je vais lire à partir du verset 1. En fait, n'est-ce pas, Jésus dit aux gens, aux disciples, il faut que vous compreniez dans quel temps vous vivez. Et là, lorsque l'apôtre Pierre parle des temps de Noé, il en parle beaucoup, mais là, il dit la chose suivante. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, par intérêt, on peut dire, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge dans un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe. N'est-ce pas? Dieu a sauvé Noé. Mais Dieu était prêt à sauver tous les hommes qui seraient allés voir Noé en le prenant au sérieux. Et le problème des hommes de l'époque, ce n'est pas qu'ils mangeaient, qu'ils buvaient et qu'ils mariaient leurs enfants. Le problème, c'est qu'ils le faisaient, mais hors de l'arche. Et ce que Dieu voulait, c'est qu'ils le fassent, mais dans l'arche. Et la question qui se pose pour nous aujourd'hui, elle est celle-ci. Est-ce que vous êtes dans l'arche ou est-ce que vous êtes à côté de l'arche? Parce que vous pouvez très bien être à côté de l'arche en communiquant avec Noé et en disant « Noé, qu'est-ce que tu fais? C'est bien, explique-moi. Mais je suis en train de construire une arche. Dieu m'a demandé de construire une arche parce que bientôt le déluge va venir et bientôt tout le monde va mourir et tous ceux qui ne sont pas dans l'arche vont périr. » Et alors, qu'est-ce qu'il y avait comme réaction? Eh bien, il y en a certains qui disaient, « Bon, c'est quoi ton truc? Tu délires? T'as vu où on est? Il n'y a pas d'eau ici, on est au sommet d'une montagne. Enfin, je ne sais pas, mais enfin, ça n'a pas de sens. Tout ce que tu fais là, ça n'a aucun sens. » Et puis, vous en avez d'autres qui disent, « C'est vrai qu'on vit dans un monde qui est difficile, n'est-ce pas? On vit dans un monde où les choses ne vont pas bien. La moralité n'est pas bonne actuellement. Je comprends ce que tu fais, Noé, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça m'intéresse d'ailleurs ce que tu fais. Peut-être qu'un jour je viendrai te voir. Peut-être qu'il faudra qu'on en parle tous les deux, n'est-ce pas? Il faudra qu'on ait un temps et qu'on discute de ces choses-là. C'est sérieux ce que tu fais, je t'estime beaucoup. Je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. » Il y en avait des comme ça. Il y en a peut-être même qui sont montés, qui sont allés voir le chantier. Il dit, waouh! Il dit, c'est bien! Tu fais ça, mais alors c'est nickel, c'est réglé comme du papier à musique, et c'est Dieu qui t'a dit, waouh! Qu'est-ce que c'est bien! Il dit, quand l'eau va venir, tu me gardes une petite place, hein? N'est-ce pas? Le drame. C'est pas que les gens s'intéressent pas à l'évangile. C'est pas que les gens n'ont pas un intérêt d'une certaine manière pour l'évangile. Il y a beaucoup de choses qui sont bien dans l'évangile, n'est-ce pas? Dont on pourrait bénéficier. Le drame, c'est qu'ils ne montent pas dans l'arche. Et quand je dis monter dans l'arche, c'est pas venir à l'église d'Asbrook, hein? C'est pas de ça dont je parle. C'est d'entrer dans le cœur de Dieu. C'est d'entrer dans l'endroit que Dieu gère, véritablement. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de son arche. C'est Dieu qui a fermé la porte. C'est Dieu qui a fait couler l'eau. Et ensuite, c'est Dieu qui a fermé la porte. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas y avoir d'arrangement de dernière minute avec Noé. Noé ne pouvait pas donner des passe-droits à certains. C'était soit on y était, soit on n'y était pas. Et si on n'y était pas, eh ben c'était trop tard. Et personne ne pouvait dire « je ne savais pas ». Parce que ça faisait longtemps que Noé était en train de bâtir son arche. Ça faisait longtemps qu'il était en train de leur dire « l'eau va couler et si vous n'êtes pas dans l'arche, vous allez mourir ». Ça, c'est ce que Jésus dit aux disciples. Instruisez-vous. Sachez dans quel temps vous vivez. Quel était le problème des hommes et des femmes de l'époque? Et quel est le problème des gens, des hommes et des femmes aujourd'hui? Et je parle de nous dans l'Église ici. Je ne parle pas des gens nécessairement dans le monde. Je parle des gens qui vont dans les églises. Quel est notre problème? Il n'y avait pas la crainte de Dieu. Ils ne prenaient pas les choses au sérieux. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. 1 Pierre 1,17 « Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Ça nous concerne là, maintenant, notre séjour sur la terre. Philippiens 2,12 « Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Josué 4, 24, « Pour que tous les peuples sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » Les enfants de Dieu sont appelés à veiller et à se tenir prêts dans la crainte de Dieu. Et quand je dis la crainte de Dieu, je ne suis pas en train de dire dans la panique et dans la peur et dans l'épouvante. D'accord? La crainte de Dieu. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Josué a construit une arche pour la famille. Qu'est-ce que nous faisons, nous? Est-ce que nous sommes en train de construire une arche chacun pour nos familles, pour nos amis? N'est-ce pas, nous les avons, ces amis qui viennent et qui nous disent « Ouais, c'est intéressant tout ce que tu nous dis, mais je ne suis pas prêt. » Nous les avons, les gens dans l'église qui viennent et qui disent « Oh, ce que j'entends, ça me plaît, ça me plaît. Un jour, ce sera trop tard. » Un jour, ce sera trop tard, je vous garantis. Et ne croyez pas qu'il y aura une porte de sortie. Ne croyez pas qu'il y aura un purgatoire. Ne croyez pas qu'il y aura un moment où vous pourrez discuter, plaider votre cause. Non. Un jour, ce sera trop tard. Jésus veut que nous possédions une vision juste de l'état du monde dans lequel nous vivons. Une vision juste de l'état de l'Église dans laquelle nous sommes inclus, plus ou moins à notre corps défendant parfois. Il parle des faux docteurs, n'est-ce pas, y compris dans Matthieu. Jésus veut que nous ayons une conscience du jugement à venir. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Jésus veut que nous ayons une conscience éveillée sur la stratégie de Satan et aussi sur sa patience. Parce que nous vivons les temps de la patience de Dieu. Ce sont les temps où Jésus, où Dieu nous sauve encore. Mais un jour, il ne viendra plus seulement. Il ne sera plus le sauveur, il sera le juge. Et je ne suis pas en train de me réjouir de ça. Mais c'est simplement comme ça que c'est prévu. 1 Pierre 3, verset 20. La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. C'est de ça dont il est question et c'est de ça dont Jésus parle. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Actuellement, aux États-Unis, on fait des statistiques sur les chrétiens nés de nouveau. Pas ceux qui se déclarent nés de nouveau. Ceux dont on a renvoyé un questionnaire, on a croisé des questions, et on a compris qu'au travers des réponses qu'ils donnaient, eh bien, c'est des gens qui avaient l'assurance de la vie éternelle, l'assurance du pardon de leurs péchés, et qui considéraient que Jésus était leur Seigneur et Sauveur. Donc on a essayé de véritablement trouver ceux qui étaient le plus proche de ce qu'on peut appeler aujourd'hui un chrétien de nouveau, et on a fait des statistiques. 58% de ces chrétiens nés de nouveau, non pardon, 42% de ces chrétiens nés de nouveau ne croient pas à l'existence de Satan. Vous vous rendez compte? Si vous ne croyez pas à l'existence de Satan, ce n'est même pas la peine d'essayer de croire en Dieu. Moi, quand j'étais en Birmanie, il n'y a aucun doute sur l'existence de Satan. Le monde des esprits, il n'y a que ici, en Occident, qu'on n'y croit plus. Partout ailleurs dans le monde, c'est une évidence. Mais nos esprits sophistiqués et trafiqués par Satan nous invitent à minimiser absolument ces choses. Quel était donc le problème des hommes et des femmes de l'époque? L'autosuffisance. Ou l'indépendance vis-à-vis de la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Dans Matthieu 24, au verset 48, vous lisez. Si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Si vous posez la question aux chrétiens concernant le retour de Christ, tous vous diront, mais oui, Christ va revenir, bien sûr, on y croit. N'est-ce pas? Tout le monde croit que Jésus va revenir chez les chrétiens, quelle que soit la dénomination. Jésus va revenir d'une façon ou d'une autre. Ah oui, on y croit. Mais comment est-ce qu'on vit? Est-ce que notre vie montre que nous croyons véritablement que Christ peut revenir maintenant? N'est-ce pas? Nous vivons comme si les choses étaient éternelles. Nous vivons comme si nos enfants allaient aller au bout de leur carrière et allaient prendre leur retraite. Nous vivons comme si nos enfants allaient avoir des enfants. Nous vivons comme si nos enfants allaient avoir des enfants qui allaient avoir des enfants. Et nous pensons à l'avenir. Non pas comme si Jésus revenait demain, mais comme si Jésus revenait un jour. Christ, le Seigneur Jésus a dit aux disciples, instruisez-vous sur ce qui se passe. Instruisez-vous, verset 32. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, verset 37. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verset 43. Sachez-le bien. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Nous ne pouvions pas dire que nous étions tout près de l'arche. Nous étions assez d'accord de rentrer dedans. Mais nous vivions comme si le déluge n'allait jamais venir. Nous étions là à nous marier, à marier nos enfants, à manger, à boire, enfin, à vivre, quoi. Mais nous n'étions pas dans l'arche. Et quand le déluge est venu, eh bien, c'était trop tard. Et nous n'avions rien à dire à notre Seigneur. L'indépendance vis-à-vis de la volonté de Dieu. L'autosuffisance du croyant. C'est un affront. C'est un blasphème devant Dieu. Nous ne pouvons pas vivre comme si Jésus n'allait pas revenir. Non seulement pour nous, mais aussi pour nos voisins, pour nos proches, pour nos enfants. Dieu demande à ses enfants de construire une arche. Est-ce que vous la construisez? Nous sommes appelés à vivre dans l'impression, dans le retour imminent de Christ. N'est-ce pas? Il le croyait déjà à l'époque. Il le croyait déjà à l'époque et je suis sûr que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Pour que tous les enfants de Dieu vivent chaque jour comme s'il allait revenir le lendemain. Et c'est ça que nous devons rechercher, n'est-ce pas? C'est pas d'avoir des grandes connaissances théologiques, c'est important les grandes connaissances théologiques, et j'arrête pas de le dire, je veux que nos enfants apprennent toutes ces choses pour qu'ils le sachent. Pour qu'ils sachent de quoi est fait l'Église aujourd'hui, et que, avec l'Esprit de Dieu, eh bien, ils aient la capacité, soit de l'utiliser pour convaincre, soit de réfuter toutes les erreurs qui sont dites. Veillez donc, instruisez-vous, sachez-le bien, tenez-vous prêts. Engagez-vous légèrement sur des projets à long terme. Engagez-vous légèrement sur les projets à long terme. C'est pas qu'il faut s'arrêter de vivre, je suis pas en train de dire ça, n'est-ce pas? Investissez. Investissez dans le ciel, dans les biens spirituels. Investissez l'Esprit de Dieu. Entrez dans les choses de Dieu. Apprenez de lui. C'est lui qui donne la vie. Perdre sa vie aujourd'hui, c'est la moindre des choses. Pour qu'un croyant soit efficace, il faut qu'il perde sa vie. Il faut qu'il soit mort avant de mourir. À quoi ça sert si vous êtes là et que votre chair vous encombre tellement que vous ne pouvez même pas aider votre voisin, vous ne pouvez rien faire? À quoi ça sert tout ça? Investissez dans la parole de Dieu, dans la connaissance de la volonté de Dieu. Quel était donc le problème des gens alors? Quel est aujourd'hui notre problème? Deuxième Pierre 3:3. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Où est la promesse de son avènement? N'est-ce pas? Ce sont des moqueurs qui disent cela. Les moqueurs, ce sont des esprits tordus. Les moqueurs, ce sont des mauvais esprits. Les moqueurs, ce sont ceux qui s'emparent du cœur de gens même qui viennent dans les églises et qui parlent au travers de leur bouche et qui disent, mais finalement, il ne vient pas. N'est-ce pas? Ça s'appelle l'incrédulité. Vous le savez, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, l'incrédulité, c'est un péché très grave. Si vous vous replacez face à vous-même, où est-ce que vous vous situez? Où est-ce que je me situe? Est-ce que je fais partie de ceux qui sont autosuffisants et qui savent bien que Christ va revenir, mais est-ce que c'est vraiment là, maintenant, tout de suite? Enfin, j'ai des choses à faire et toutes ces... Est-ce que je suis plus loin encore dans l'incrédulité complète? Vous savez, quand le christianisme devient un système, qu'est-ce que c'est qu'un système? Un système, c'est une grosse machine. C'est assez difficile d'expliquer en 2-3 mots. Mais c'est une grosse machine qui fonctionne, qui a besoin d'une certaine forme de carburant pour fonctionner par elle-même. Alors qu'est-ce qu'il faut à un système pour fonctionner? Il faut des valeurs, n'est-ce pas? Il faut des valeurs et il faut que ces valeurs soient connues de tous. Parce que ces valeurs orientent le fonctionnement, l'action les choses qui vont être faites. Il faut des normes. Parce que ces normes, eh bien, c'est celles qui vont fonder le comportement des gens dans le système. N'est-ce pas? On a les valeurs d'un côté, c'est bien de faire comme ça, et on met une norme. Quand on marche comme ça, on est conforme. Il faut aussi des institutions. Il faut des églises, il faut des missions, il faut des associations, il faut des groupements, il faut des écoles. Et puis, il faut des acteurs. Il faut des gens qui soient présents et qui travaillent, qui interagissent dans les différentes composantes de ce système et qui font des liens entre les différents groupes. Le système n'a pas besoin de Dieu pour fonctionner. Et ça, c'est le drame. C'est-à-dire qu'on peut avoir des valeurs bibliques. On peut avoir des normes qui se fondent sur un modèle biblique. On peut avoir les institutions qui vont avec et qui fonctionnent selon les deux premiers éléments dont je viens de parler. Et on peut avoir les gens qui sont dedans et qui interagissent entre eux. Et tout ce beau monde pense que c'est ça la norme, la façon de faire qui est juste et que d'être là-dedans, eh bien ça, d'une certaine manière, ça nous sauve. Ça nous met à l'abri. Il pense que l'arche, eh bien, elle est là. Sauf que le système n'a pas besoin de Dieu pour fonctionner. On peut pour soi-même se créer ce genre de système, à titre individuel. Le Seigneur veut que nous réalisions dans quel monde nous vivons. Le Seigneur envoie des hommes et des femmes dans l'Église pour avertir, pour dire les choses. Est-ce que nous les entendons? Est-ce que nous entendons l'avertissement? Est-ce que nous réagissons à cet avertissement? Les moqueurs sont présents. Les incrédules sont présents. Ce sont les démons qui cherchent à dominer les églises. C'est la puissance de Satan qui se déverse sur tout ce qui est spirituel. Ça a commencé avec l'église apostolique. Il ne faut pas croire que si ça a commencé à l'époque, aujourd'hui c'est terminé. De loin pas. On est en plein dedans. Satan fait des propositions. C'est sa façon de fonctionner. Il fait des propositions aux croyants. Quel était le problème d'Ève lorsque Satan s'est adressé à elle? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit. Voilà le problème d'Ève. Elle a interagi avec Satan. Satan fait des propositions. Ne croyez pas qu'il utilise la violence systématiquement. Il va utiliser une violence qui est mentale. Mais il va vous faire des propositions. La seule réponse à faire, c'est de fuir. C'est de ne pas interagir. Le problème d'Ève, c'est qu'elle a répondu. Nous n'avons pas à entrer en relation avec Satan et les propositions qu'il nous fait, les propositions qu'il fait à l'Église. Nous sommes appelés à être des exemples, en tant qu'enfants de Dieu, des exemples de foi, à l'image de Noé. Moi, je me mets à la place de Noé, construire une arche au beau milieu d'un champ. C'est pas évident. Il faut de la foi. Il faut véritablement avoir confiance en Dieu. Et j'imagine les propositions que Satan lui a faites tout au long de cette construction. Mais Noé, est-ce bien raisonnable de faire bâtir une arche à cet endroit? Peut-être tu devrais descendre auprès de la mer et construire ton arche là-bas. C'est une proposition qui, somme toute, est sensée, n'est-ce pas? Voilà comment il agit. Satan s'attaque à l'Église. Et ça, ce sont les temps d'aujourd'hui. Il s'attaque par l'incrédulité, mais plus encore par la moquerie, par les propositions qu'il fait sans arrêt à ce système qui est devenu l'Église et qui finalement, parce que, n'est-ce pas, le petit homme et la petite femme qui est dans cette Église, finalement, ne voit plus ce qui se passe plus loin. C'est comme si le système nous cachait Dieu. Toutes ces choses qui se rajoutent nous éloignent peu à peu de la proximité de Dieu. Et il y a plein de choses qui viennent entre deux et qui se forment un amas de propositions autres. Jésus, et je crois que c'est l'apôtre Pierre qui parle de la simplicité qui est en Christ. Eh bien, c'est cela que Satan veut enlever. La simplicité qui est en Christ. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Sachez que l'incrédulité et l'autosuffisante sont les deux ingrédients de la séduction. Et la séduction, c'est l'œuvre de Satan. L'apôtre Paul en parle. c'est omniprésent dans la parole de Dieu. Eh bien, sachons lire les temps. Sachons voir le temps qu'il fait aujourd'hui. Reconnaissons ces temps. Et n'ayons rien à faire avec les moqueurs. N'ayons rien à faire avec les incrédules. Aimons tous. Parce que ça, c'est ce que Dieu nous demande aussi. Aimons-les tous pour qu'ils montent dans l'arche et qu'ils soient sauvés. C'est ça que nous voulons, n'est-ce pas? Moi, c'est ça que je veux pour chacun d'entre vous ici. Est-ce que vous êtes dans l'arche? Est-ce que vous vivez votre vie dans l'arche de Dieu? Parce que si ça n'est pas le cas, le jour venu, eh bien, vous ne saurez pas reconnaître les temps. Et vous serez surpris, et ce sera trop tard. Mais pour ceux qui vivent, non pas dans l'incrédulité, mais avec l'attente du retour de Christ, pour ceux qui se sanctifient eux-mêmes jour après jour, eh bien, ils ne seront pas surpris. Parce que Christ viendra, et ils seront dans l'histoire. Ils seront avec lui. Ce sera naturel. Que le Seigneur nous garde. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous mettre à tes pieds ce matin et, Seigneur, te dire que nous sommes pressés que tu reviennes. Mais aussi nous savons que tu es patient et que tu retiens les temps pour tous ceux qui doivent monter dans cette arche. Seigneur, nous te prions pour que ta volonté s'accomplisse. Nous te prions pour qu'à titre individuel, nous soyons tous prêts. Je te prie, Seigneur, pour que ceux qui ce matin savent qu'ils ne sont pas prêts, eh bien, ils ne perdent pas une seule seconde et qu'ils montent dans l'arche. Seigneur, les temps sont courts. Tu reviens bientôt. Seigneur, nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons pour ce que tu nous apportes jour après jour. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu juste. Et tu mérites que ton peuple t'écoute, t'honore, pas seulement des lèvres, mais dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. Seigneur, que ton nom soit béni pour aujourd'hui et pour toute éternité. En ton nom. Amen.